Je voudrais aujourd'hui vous parler de la société. Aristote l'avait déjà constaté. L'homme est un animal social. C'est-à-dire qu'il a toujours vécu dans des groupes aussi loin que l'on remonte dans l'histoire. Le cas des ermites est tout à fait un cas particulier que l'on ne trouve que dans des sociétés déjà très organisées. Le mythe du bon sauvage isolé qui s'accorde avec d'autres selon un contrat fait est parfaitement le produit d'une imagination un peu malade. L'homme a toujours vécu en société. Mais une simple réunion d'hommes ne suffit pas à faire une société. Prenons l'exemple d'un moyen de transport. Avion, car ou bateau, n'importe. L'ensemble des passagers n'est pas une société. Chacun vit pour soi, parle de ses propres affaires ou reste dans son coin. Qu'il survienne un accident, le bateau s'échoue sur une île déserte par exemple, normalement les passagers vont s'organiser selon leurs compétences. Les uns pour soigner les blessés, les autres pour demander des secours, les autres pour tenter de réparer le moyen de transport, d'autres peut-être pour organiser leur ravitaillement en eau, en vivres, etc. On a donc l'amorce d'une société. Ce qui prouve bien que toute société s'organise autour d'un bien commun, ou plus exactement autour de biens communs plus ou moins hiérarchisés. Dans une entreprise, il y a outre la finalité de l'entreprise, la recherche d'un profit financier, celle de l'enrichissement professionnel de chacun de ses employés, mais il existe une hiérarchie à reporter. Le fondateur de l'entreprise Michelin l'avait parfaitement défini. Notre but est de produire le meilleur pneu au meilleur prix. On ne répétera jamais assez que, contrairement à ce qui est ressassé dans la presse économique actuelle et même dans la presse tout court, le but premier d'une entreprise n'est pas de faire un profit. Gagner de l'argent est pour une entreprise une nécessité. Si elle n'en gagne pas, elle meurt. Il en est du profit pour une entreprise comme du boire et du manger pour chacun d'entre nous. Faute de boire et de manger, l'homme meurt, mais le but de sa vie n'est pas la bonne chair. L'Église répète que, créé à l'image de Dieu, l'homme est bien plus qu'un simple tube digestif muni d'un organe sexuel. Si le profit était l'unique but d'une entreprise, les meilleures entreprises seraient les contrefacteurs, les faussaires, les trafiquants de toutes sortes. Il faut répéter que le but d'une entreprise est de rendre un service. Elle a donc, qu'on le veuille ou non, une dimension morale, que les libéraux intransigeants le reconnaissent ou non. Et cette dimension morale intéresse non seulement les fournisseurs et les clients, mais aussi les employés qui y participent. Comme toute association humaine, l'entreprise est composée d'hommes libres et responsables. Cette liberté et cette responsabilité sont certes limitées par les circonstances, l'éducation, les coutumes, mais il en subsiste toujours quelque chose. Et ce n'est pas à l'État, qu'il s'appelle César ou Créon, de décider ce que chacun de ses membres doit accomplir, comme il le ferait pour des animaux domestiques. C'est là l'erreur la plus tyrannique de tous les socialismes, de tous les totalitarismes, c'est la même chose, de décider pour chacun de nous ce qui est bien et ce qui est mal. Dans sa pièce sur Antigone, Anouilh a bien montré que cela peut aller jusqu'à la caricature, Créon ayant décidé entre le bon et le mauvais des frères d'Antigone sur un simple coup de dé. Le libéralisme reconnaît cette liberté fondamentale de l'homme, et il a raison. Mais il oublie d'ajouter que dans une société normale, cette liberté doit être mise au service d'un bien commun. Les socialistes reconnaissent avec raison que chacun doit se mettre au service d'un bien commun, mais oublient d'ajouter que la puissance dirigeante, en premier lieu l'État, doit respecter la dimension de liberté de l'homme et que la défense de la morale n'est pas dans ses attributions. Ce n'est pas à César de décider du prix de la vie d'un homme ni des modalités de l'union conjugale. C'est ainsi que l'on peut voir, on peut dire et l'on doit dire que libéralisme et socialisme ne sont que les deux faces opposées de la même pièce de fausse monnaie, celle qui évacue de la nature de l'homme son côté créé à l'image de Dieu. On aboutit dans chacun des cas à la tyrannie d'une oligarchie qui n'a aucun frein à son règne, aucun frein à la puissance d'une nomenclature apolicière ou aucun frein dans l'unique but de servir sa majesté financière. Il est frappant de constater que lorsque le Christ a déclaré que nul ne pouvait servir de maître, il n'a pas dit Dieu et le diable, mais Dieu et l'argent, comme si l'argent était une espèce d'hypostase de Satan. Ces deux oligarchies, la socialiste et la libérale, font d'ailleurs excellent ménage, comme je l'ai personnellement constaté dans mon activité professionnelle. Les socialistes sont les premiers à édicter des lois imbéciles et contraignantes qui permettent aux libéraux de gagner de substantielles parts de marché. Qu'il s'agisse de l'interdiction des canalisations en plomb, même dans le cas d'eau calcaire, où elle n'a aucune importance, qu'il s'agisse de l'interdiction des sacs en plastique, qui brûlent très bien sans laisser de cendres, au profit des sacs en papier, l'alliance entre les deux options est parfaite. Il n'est que de voir la facilité avec laquelle les hommes de la nomenclature soviétique se sont mués en capitalistes experts en bourse et en trafic immobilier. Pourrait-on citer un exemple de société parfaite à une échelle un peu réduite? On peut penser à un orchestre où chaque exécutant a longuement appris à jouer de son instrument, parfois dans la douleur, et où chacun a bien sa place, du violon au tuba et du piccolo au timbal. Tous sont sous l'autorité d'un chef qui lui-même se doit de respecter l'idée du compositeur. Le meilleur exemple d'une société idéale, c'est-à-dire dont on peut s'inspirer sans la suivre mot à mot, bien sûr, le meilleur exemple d'une société idéale est celle des communautés monastiques. Le but est clair, la sanctification de chacun. Moyennant quoi, les rôles sont aussi différents que complémentaires. Le père abbé dirige le navire, le célérier veille aux travaux, le comptable à la caisse. Ils ne sont pas exposés à la chaleur du fourneau comme le frère cuisinier, ni aux rayons du soleil comme le frère jardinier. En revanche, ils ont peut-être des angoisses nocturnes inconnues des autres. Quant au frère de la bibliothèque, avec ses études, la peine qui lui est demandée est bien différente. Mais tous concourent au bien commun et l'idée même de la lutte des classes est étrangère, leur est complètement étrangère. Il n'est que de les entendre chanter complices.